Shavua Tov. On va donc parler de Yosef, celui qu'on appelle Yosef Hatzadik, Yosef le juste. À dire vrai, le début de ma réflexion sur Yosef, c'était d'essayer de trouver la source du fait qu'on le nomme Yosef Hatzadik. Pas complètement satisfaisante. Il y a un Midrash Tanhuma sur la Parchat Noir qui dit il y a deux personnes qui sont appelées tzadik parce qu'elles ont été nourricières. Elles ont nourri. C'est Noah qui a nourri tous les habitants de l'Arche. Et c'est Yosef parce qu'il a nourri sa famille. Donc, premièrement, on voit qu'il est appelé tzadik parce qu'il a nourri. Donc ça, c'est un moment assez tardif dans sa vie. Mais le Midrash Tanhuma apporte une source pour Yosef. Et c'est un passouk dans Amos. Un passouk dans Amos qui dit « Parce que les Bnei Israël ont vendu. » On ne dit pas les Bnei Israël parce qu'ils... pour avoir vendu pour de l'argent un tzadik, etc. Donc, on parle de quelqu'un qui a été vendu quand il était tzadik. Aucun des mefarshim sur Amos, enfin dans ce que j'ai vu, aucun d'entre eux ne dit qu'il s'agit de Yosef. Mais Chazal le disent. Et Rashi, lui, là-bas, il explique que c'est les juges de toutes les générations qui ont accepté du shofad, ils ont accepté des pots de vin, il y avait une corruption généralisée, et ils ont donc déclaré coupables des gens qui, en réalité, étaient des tzadikim, des gens qui ne méritaient pas d'être déclarés coupables. Donc, dans les commentateurs, il n'y a pas de trace de Yosef. Et puis surtout, le verset qu'on amène ici, qui parle du fait qu'ils ont vendu quelqu'un qui était tzadik, mais Yosef, à ce moment-là, il n'avait pas encore nourri qui que ce soit quand il a été vendu. Donc on a un problème. On parle d'avoir vendu quelqu'un qui est appelé tzadik alors qu'il ne l'est pas encore. Si d'être tzadik, ça lui revient, ça, il le mérite à partir du moment où il a été nourricier. Il y a une Gemara à la fin de Masechet Ketuvot qui dit que Yosef savait qu'il était tzadik gamour. Non seulement tzadik, mais même tzadik gamour. Et là-bas, dans le contexte, c'est parce que on veut expliquer pourquoi il n'avait pas besoin du mérite d'habitant l'Eretz Israël. C'est le sujet de la fin de la Gemara dans Ketuvot. Et là-bas, il était tzadik gamour. Personne, enfin de ceux que j'ai vus, personne n'explique d'où il savait cela. Le Zohar, quand il parle de la raison pour laquelle Yosef est tzadik, il met toujours en évidence le fait qu'il ait résisté à Madame Potiphar. Et même un Zohar qui dit que de toute sa vie, Yosef n'est jamais appelé tzadik, jusqu'à ce qu'il résiste à Madame Potiphar. Donc certainement pas quand il a été vendu, ce qui est le passouk qu'amène le Tanhuma, le Midrash Tanhuma. Rashi explique. Il explique ici dans les parchiotes de la fin de Bereshit et aussi au début de Shemot, que Yosef, Rachid dit, Yosef était roi, et aussi il était prisonnier parmi les peuples, et néanmoins il a tenu le coup. Il s'est bien comporté. Là aussi, Rachid est un peu surprenant parce que il a été d'abord prisonnier et après roi. Pourquoi est-ce que Rachid dit il était roi et aussi prisonnier parmi les nations? Et dans ce mot, il dit le diapha tzitkato shel Yosef. Il faut publier, il faut faire savoir que Yosef était tzadik. Effectivement, il a tenu le coup en Égypte. D'où vient cette capacité de Yosef? D'où vient la force de Yosef? Mais pour ça, on est obligé d'aller chercher la source. La source est la suivante. Rachel et Léa, les deux filles de Laban, comme tout le monde sait, elles étaient destinées à épouser Léa, qui était la fille aînée, devait épouser Esav, et Rachel, qui était la cadette, devait épouser Yaakov. Esav, c'est un homme de terrain, Ish Sadeh. Donc la avoda, le service de, si on peut parler comme ça, de Esav, c'est une avodat chutz. On verra plus loin ce que veut dire avodat chutz concrètement. C'est un travail sur l'extérieur. Je vais expliquer qu'est-ce qui est extérieur, qu'est-ce qui est intérieur. Et Yaakov, qui était chef Oalim, son travail c'est un travail intérieur. Donc la femme qui doit aider Esav, c'est une femme qui est capable de l'aider dans ce qui est l'essentiel de son travail, ce qu'on appelle avodat chutz, avodat extérieur. La femme qui doit aider celui dont l'essentiel du travail est un travail intérieur, c'est Rachel, elle doit l'aider sur ce plan-là. Donc au départ, Rachel était celle qui allait aider, qui allait travailler sur l'avodat pnim, l'avodat intérieur, et Léa, celle qui allait travailler sur l'avoda extérieure. Rav Huna dit, la puissance de la tfila est tout à fait impressionnante, parce que non seulement par sa prière, par sa tfila, Léa a réussi à échapper à Esav et elle a épousé Yaakov, ce qu'elle voulait, mais elle a même obtenu chez Kadmata la Achota, c'est-à-dire qu'elle était la première des épouses de Yaakov. Et étant la première des épouses de Yaakov, elle a obtenu par sa tfila de prendre la place de Rachel, qui devait être la femme donc de Yaakov. Donc c'est elle qui va aider Yaakov dans son travail, dans sa avoda pnimite, dans sa avoda intérieure. Et du coup, Rachel doit complètement changer et elle va devoir s'occuper de la avoda extérieure. La grande différence, c'est comme disent Chazal, c'est que quand on dit Léa Hagdola, dans les deux filles de Laban, il y en avait une qui était Hagdola, la grande, Léa, le Midrash dit Bematanoteha, par ses cadeaux, ce qu'elle donne, on ne sait pas si elle l'a reçu, en tout cas elle donne, c'est que elle va avoir la, pour ses descendants, elle va avoir la Keuna et la Malchut. Elle va avoir la prêtrise et la royauté. Et ce qui est encore plus important, si on peut parler comme ça, c'est que la Keuna et la Malchut, la prêtrise et la royauté sont le Olam, elles sont pour l'éternité. Et du coup, Rachel Haktana, elle, ce qu'elle a, ses matanotes à elle sont des matanotes qu'on appelle le Sha'a. C'est les matanotes pour un certain temps. Et les descendants de Rachel vont avoir des choses, mais ils les auront pour un certain temps, pas pour l'éternité. La royauté de Shaoul, c'est pour un certain temps. La royauté de David, qui est le descendant de Yehuda, Shaoul c'est le descendant de Rachel, la royauté de David, c'est une royauté pour l'éternité. La royauté lui a été conférée pour toujours. Dans le clan d'Israël, ce sera toujours, a priori, la tribu de Yehuda qui devra avoir la royauté et la Keuna. Et pour donc il y a avec la Keuna, il y a tout le Beth Amikdash, etc. Et même à Shiloh, qui était le Beth Amikdash d'avant le grand Beth Amikdash, si vous voulez, le Mishkan, le Shiloh, c'est aussi provisoire. C'est marqué Vaimas be Oel Yosef ou Bshevet Ephraim lo bacha, on dit dans Tehilim. Finalement, Kadosh Baruch Hu n'a plus voulu, il a même été dégoûté de Shiloh, qui était Oel Yosef, qui était le tabernacle sur les terres de Yosef, c'est-à-dire d'Ephraim. C'est pas resté comme ça. C'est pas resté, c'est toujours du provisoire. Mais c'est un provisoire qui est incontournable. C'est-à-dire, ce provisoire, il est la condition sine qua non de la possibilité pour le définitif, pour l'éternel de s'établir. C'est-à-dire, le travail doit être fait au niveau du provisoire, pour que puisse venir par la suite le définitif. En d'autres termes, le travail de Rachel, des descendants de Rachel, est un travail effectivement limité dans le temps, mais qui est une obligation, un passage obligé. Un passage obligé parce que la Keuna et la Malchut, on ne les a que dans l'époque de la Geoula, l'époque où on est sorti du Galout, où on n'est plus dans l'exil. Dans l'exil, il n'y a pas de Keuna qui puisse s'exprimer complètement, et il n'y a pas non plus de royauté qui puisse s'exprimer complètement. Yosef est l'héritier de Rachel, Yehuda, celui de Léa. Yosef est l'héritier de Rachel et on voudrait savoir la caractéristique de Rachel. Comme tout le monde sait, c'est le silence. Et on voudrait savoir en quoi le silence de Rachel a aidé Yosef d'arriver là où il est arrivé. Alors, on va s'interrompre un petit peu là, dans cette analyse-là, et on va revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, donc Rachel, lorsqu'elle était enceinte, et qu'elle est enceinte de Yosef, Yaakov Avinu décide, il dit, dès que Yosef sera né, et qu'il naît, effectivement, Yaakov Avinu dit, voilà, je peux quitter Laban. Pourquoi? Parce que j'ai Yosef. Yosef, c'est celui qui peut lui permettre d'affronter Esav. C'est ça le problème. Quitter Laban, ça voulait dire quitter Laban pour rentrer chez son père, pour rentrer chez Yitzhak. Mais sur le chemin, il aurait à se confronter avec Esav. Et jusqu'à la naissance de Yosef, Yaakov ne se sent pas capable de le faire. Et dès la naissance de Yosef, il considère qu'il en est capable. Yosef, c'est celui qui peut faire pièce à Esav. À cet Esav dont le travail, c'est un travail évidemment extérieur, un travail sur le terrain, si on peut parler comme ça. Il a donc Yosef, et il affronte Esav. Finalement, ça se passe beaucoup mieux qu'il ne le pensait. Il revient chez son père. Et puis, il pense que, bon, voilà, il a fait l'essentiel du parcours difficile, en fait. Bon, il n'en est rien. L'histoire de Yosef va lui sauter à la figure. Alors, juste pour mémoire, Yosef rêve. Il a un premier rêve dans lequel il voit que ses frères se prosternent devant lui. Ça se fait l'affaire des gerbes, comme vous savez, mais je ne vais pas entrer maintenant dans le détail. Il voit ses frères se prosterner devant lui. Et puis il y a un deuxième rêve où il voit sa famille comme les étoiles, le soleil, la lune, et il voit que tout cela se prosterne aussi devant lui. On ne comprend pas très bien, mais Yosef considère que ses frères sont les meilleures personnes auxquelles raconter ses rêves qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Si on a un rêve qui dérange, il faut le raconter à quelqu'un, à un ami, à une amie, mais il ne faut pas le raconter totalement. Il faut donner les éléments. Dans mon rêve, on parlait de ça, de ça, de ça. Mais pas le dire. Parce que si on le dit, on a une règle que « akol volech acharapé », tout suit, tout va d'après la formulation qui en a été donnée. Donc il ne faut pas donner une formulation. Évidemment, si on veut que quelqu'un interprète le rêve, il faut quand même lui donner quelques éléments. Alors, on lui donne des éléments, et lui, celui qui est a priori bien intentionné, va choisir dans ces éléments ceux qu'il peut utiliser pour une construction du sens du rêve favorable à celui qui a rêvé. Et le reste, ça s'appelle Dvarim Betelim. Et le reste, on laisse tomber. Et donc, Yosef, qui a un problème avec ses rêves, c'est assez énorme, eh bien, il le raconte à ses frères, parce qu'il pense que ses frères sont la meilleure adresse. On a l'impression qu'il ne pouvait pas tomber plus mal. Alors, ils le haïssent. C'est très très fort. La Torah, haïr, c'est totalement interdit. Ses frères le haïssent à un point qu'on a peine à accepter aujourd'hui. Ses frères sont les Shifteka, sont les Shvatim, sont les ancêtres du peuple juif, en fait. Et les voir, eux, tomber dans cette haine, très difficile à accepter. Alors, ils ont des excuses, parce que Yosef, il va raconter tout ce qu'il peut de mal sur ses frères. Bon, tout ça, on peut l'expliquer, c'est pas directement mon problème aujourd'hui. On peut un peu expliquer les choses.
toujours est-il que, comme vous savez, un jour, Yaakov Avinu envoie Yosef prendre des nouvelles de ses frères, des troupeaux et de ses frères. Et il l'envoie, en français on l'appelle, on devrait dire qu'il l'envoie au Caspique, parce que ses frères le haïssent, et il se passe ce que on a l'impression qu'il était évident que c'est ce qui allait se passer. C'est quand Yosef arrive chez ses frères, eh bien ses frères essayent d'abord de le tuer, puis ensuite ils le jugent et le condamnent à mort. Puis ensuite, Yehuda obtient, enfin, décide de le gracier. La grâce, ça consiste à le mettre dans un puits où il y a seulement des scorpions et des serpents. Bon, c'est ça la grâce. Et évidemment, il ne lui arrive rien, mais il est vendu, je rentre dans les détails, il arrive en Égypte, il est acheté par un personnage très important, ce monsieur Potiphar, c'est un noble, c'est un bonhomme qui est chef des bouchers probablement, c'est aussi quelqu'un qui a une prison spéciale pour les nobles, c'est comme ça, il avait une prison. Et on a un problème parce que Yosef est très beau. Il est très beau, et Chazal disent, c'est vrai, il est très très beau, et il est le fils de Rachel, au sujet de laquelle le texte a les mêmes mots pour dire sa beauté que ceux que le texte a utilisé, que la Torah a utilisé pour dire la beauté de Yosef. Ils ont la même beauté, si on peut parler comme ça. Cette beauté-là, pourquoi est-ce qu'ils ont... Elle joue un rôle fondamental. Et... Elle met un lien, effectivement, direct, supplémentaire, entre Rachel et son fils Yosef. Il met encore l'accent sur le fait que Rachel va transmettre, comme je vous ai dit, elle va transmettre à Yosef la avoda qu'elle a par rapport à Yaakov. Vous vous souvenez, elle a changé d'avoda. Il y a des personnes qui font changer l'histoire, modifier l'histoire. Léa, par sa prière, a changé, elle a modifié l'histoire. Elle a fait en sorte que Rachel est désormais dépositaire. Elle est celle qui doit aider Yaakov dans sa avodat chutz. La avodat à l'extérieur. Et Rachel va faire hériter, elle va transmettre à Yaakov cette capacité aussi de avodat chutz, cette capacité de réussir dans le travail sur l'extérieur. Ce travail sur l'extérieur, pour pouvoir le réussir, disons, Rachel est, pour ce qui nous concerne ici surtout, Yosef, ils ont besoin de cette beauté en quelque sorte. Ils ont besoin de cet atout, de cette qualité qu'est la beauté. Ils en ont besoin pour pouvoir agir sur le monde extérieur, pouvoir passer les épreuves qui sont nécessaires pour réussir la avoda dans le monde extérieur. Mais pour Yosef, qui arrive en Égypte et qui est un beau jeune homme, ça lui fait pas mal de problèmes. D'abord, il a des problèmes avec Potiphar, on n'en parle pas trop, Chazal en parle. Puis ensuite, il a le gros problème avec Madame Potiphar. Madame Potiphar, il faut que j'en dise deux mots. Il y a dans le texte de la Torah qui nous parle de cette trajectoire de Yosef, au milieu du texte qui parle de Yosef, tout à coup la Torah se met à parler d'Yehuda. Elle nous parle de Yehuda, elle nous raconte son mariage, elle nous raconte ses trois fils, et elle nous raconte que les deux premiers fils de Yehuda se conduisent très mal et ils meurent. Et normalement, Yehuda, comme ils sont morts sans enfant, il y a quelque chose comme le Yiboum, le Lévira, la femme de ses deux premiers fils, Tamar, elle devrait épouser Shéla, le troisième fils. Mais Yehuda, il doit se douter que son troisième fils est probablement pas meilleur que les deux premiers. Il n'est pas pressé de donner Shéla à Tamar. Il pense que jamais 203 et que bon. Mais alors, pour l'instant, Tamar, elle est là, elle attend. Elle ne peut pas se remarier parce qu'elle est en attente de se marier éventuellement avec le troisième fils de Yehuda ou qu'il lui donne Khalissa, qu'il la libère. Rien ne se passe. Donc, la Torah nous raconte que Yehuda, lui aussi, à ce moment-là, il est en chemin, il a un rapport avec cette Tamar qui s'est déguisée en prostituée pour avoir un enfant de cette famille. Le Yiboum, à ce moment-là, il pouvait se faire aussi avec n'importe quel proche du défunt. Pas seulement les frères, comme pour aujourd'hui pour nous. Et donc, Tamar, il y a donc cette parenthèse avec Tamar, et Tamar est présentée comme une Tzedeket, comme une femme comme extraordinaire, qui d'ailleurs va s'inscrire dans la trajectoire du Mashiach, puisque de ce Yehuda, de ce rapport-là, elle va être enceinte, elle aura deux enfants, dont l'un sera l'ancêtre du Mashiach, Pérez. Donc Tamar est une Tzedeket, en plus on apprend beaucoup de choses d'elle, et entre autres on apprend d'elle qu'il vaut mieux se laisser brûler, littéralement, plutôt que de mettre quelqu'un, de faire blêmir quelqu'un en public. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu accuser Yehuda d'être le père, elle lui a seulement fait savoir, c'est toi le père, donc maintenant tu fais ce que tu veux. Si tu avoues, c'est bien, sinon, je vais mourir. Et moi, je ne te dénoncerai pas. Donc, là, Tamar est une Tzedeket. Et le Midrash et Chazal disent que Madame Potiphar, c'est une Tzedeket de la même grandeur que Tamar. C'est aussi une Tzedeket. On a affaire qu'à des Tzedekim. Voilà, c'est aussi une Tzedeket. Pourquoi? En plus, c'est une Tzedeket qui... Elle a un Ruach HaKodesh, Madame Potiphar, excusez du peu. D'accord, Madame Potiphar, elle voit le Ruach HaKodesh. Elle voit qu'elle va avoir, c'est comme ça qu'elle interprète, une descendance commune avec Yosef. Donc elle se dit, c'est pas simplement un caprice, etc., que j'ai, mais c'est nécessaire, je vais construire quelque chose avec ce Yosef. Elle a vu le Ruach HaKodesh. C'est une forme faible de prophétie. Alors elle se trompe. Elle se trompe comme Korach va se tromper. Lui aussi, il aura vu par Ruach HaKodesh, mais il se trompe. Elle se trompe parce que ce n'est pas avec elle que Yosef aura une descendante, enfin aura des enfants, mais c'est avec sa fille adoptive. Donc cette fille adoptive, c'est aussi tout un chapitre, cette fille adoptive, c'est Osnat, qui va donc, que Paro va donner comme épouse à Yosef, donc il va le nommer Sofnat Paneach, il va le nommer vice-roi d'Égypte, etc., et il va lui donner une épouse. Il a pris une épouse, ça tient très bien, il a pris une fille de la maison Potiphar, c'est une grande maison en Égypte, donc il prend quelqu'un de bien. tu donnes cette fille. Bon, cette fille-là, c'est le produit du viol de Dina par Shrem. Quand Shrem a violé Dina, enceinte, elle a eu une fille. Et Yaakov Avinu, il a caché cette fille. Il y a un midrash qui dit qu'il l'a caché, je ne sais pas très bien, dans un buisson, dans un sné. C'est pour ça qu'elle s'appelle Osnat, c'est-à-dire Asenat, si on veut dire, hein, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il a pensé qu'elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait pas vivre pleinement, reconnue, etc. Donc il a préféré l'exiler. Il lui a écrit une amulette dans laquelle il a écrit que tout celui qui me touche, touche la maison de Yaakov. C'est censé mettre en garde les gens. Et comme vous savez, quand Yosef a été nommé vice-roi, il a fait le tour du propriétaire, le tour de la muraille, et évidemment toutes les filles lui ont envoyé leur adresse email, il est jeté, et Osnat n'avait rien d'autre, elle a jeté son amulette, après certains, après d'autres, elle n'a rien fait. En tout cas, Yosef, quand il a rencontré cet Osnat que Paro lui donnait, ou bien il a lu l'amulette, il a vu ce qui était écrit, il a compris, il n'a rien dit à Paro, mais bon, il était en train d'épouser sa nièce. Avec cette nièce, juste en passant, il va avoir en tout cas deux enfants, Ephraim et Menaché. Ces enfants vont avoir une trajectoire tout à fait particulière. Bien qu'ils soient les enfants de Yosef, à la fin de sa vie, Yaakov Avinu va, quand il va rencontrer ses enfants, là, il va dire à Yosef, tes enfants, en fait, ce sont les miens. Je prends ces enfants. Je les prends et je leur donne le même statut que leurs oncles, Shimon et Lévi. Ils vont devenir des tribus. Chose absolument extraordinaire. Par ailleurs, j'ai déjà dit souvent que ces deux enfants sont les seules tribus qui ont dans leur ascendance à la fois Rachel et Léa. Ils ont Rachel par Yosef et ils ont Léa par Dina, leur mère. Enfin, leur grand-mère. Et donc c'est les seuls. Donc ils sont le plus pur produit, si on peut parler comme ça, de Yosef. C'est Yosef et ses deux femmes ont produit ces enfants-là. Tous les autres shvatim sont ou des enfants de Léa, ou des enfants de Rachel, ou bien des shvatot qui appartiennent à l'une ou à l'autre. Personne n'est aussi complètement descendant de Yaakov que ces deux-là, et ces deux-là sont effectivement ceux qu'on utilise depuis toujours dans le clan Israël pour bénir nos enfants. On donne, là aussi on pourrait s'étonner, on ne dit pas qu'Hachem fasse que tu sois comme Lévi et Issachar, non, c'est Ephraim et Menaché. Bon. Ça c'est la double part, c'est-à-dire que c'est en fait la façon dont Hachem a résolu le problème, enfin, Yaakov a résolu le problème de donner une double part à Yosef, qui était le fils de Rachel, en privilégiant le fils de Rachel comme Bechor plutôt que Reuven, qui est un Issour, une Torah, mais probablement il faut dire que Reuven n'était pas capable de jouer ce rôle-là. Donc ça veut dire mettre un bémol, c'est quand la Torah dit tu n'as pas le droit de donner la Torah au fils de la femme que tu préfères, aux dépens du fils de la femme haï, disons, l'autre femme. C'est vrai seulement si le fils en question est à la hauteur d'être le Bechor. Et là, visiblement, Yaakov Avinu a décidé que Reuven ne pouvait pas être ni roi, ni Cohen Gadol, ni même avoir la double part. On revient sur ces deux femmes, donc Tamar et Madame Potiphar. Elles sont des septuagnottes au départ. Ça va changer. Le point important, c'est comment elles se comportent quand ça va mal. Quand ça va mal, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, Tamar, elle risque sa peau, elle est condamnée à mort pour quelque chose qu'elle n'a, une faute qu'elle n'a pas faite, mais elle ne veut pas faire honte à Yehuda en public, et donc elle lui laisse la possibilité de ne rien dire et de continuer de la traiter comme une condamnée à mort. C'était très difficile pour Yehuda d'avouer ce que cette chose-là, c'est un peu problématique, je ne sais pas très bien. Qu'est-ce qui était difficile de dire que, comme il va dire, c'est vrai, lui donner Sheila comme mari, et ça passe ou ça casse, ou peut-être que Sheila devait lui donner une Khalitsa, devait la libérer, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Il ne faut pas oublier que le tribunal qui a condamné Tamar, c'était un tribunal qui était composé de Yaakov Avinu, de Yitzhak Avinu, de Yehuda. Bon, comment ils peuvent être tous les trois dans le même tribunal? Enfin, bon. Donc Yehuda, c'était devant son père et son grand-père, qui devait annoncer la grossesse de Tamar. C'était peut-être pas obligatoirement la chose la plus facile à faire. Mais Yehuda, en avouant ici, il a en quelque sorte fait vivre le deuxième sens de son nom, Yehuda. Quand sa mère lui a donné ce nom d'Yehuda, c'était la Shon Hoda'a, c'est-à-dire je remercie Hachem pour le fait de m'avoir donné un quatrième fils, c'est-à-dire plus que ma part, puisque Yaakov avait quatre femmes, si vous voulez, et que 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc quand elle a eu le quatrième, elle a dit j'ai plus que ma part. Et donc il faut que je reconnaisse, que j'exprime ma reconnaissance. Ce quatrième-là, elle l'a appelé Yehuda, qui est construit sur la notion de Hoda'a. Mais la Hoda'a, en Lashon HaKodesh, comme la reconnaissance en français, ça a un autre aussi. On peut aussi reconnaître qu'on a tort, reconnaître qu'on a une dette. Et donc là, ici, je reconnais, c'est moi. Donc il fait vivre, si vous voulez, le deuxième sens de son nom. Donc, du coup, il a un nom qu'il assume complètement. Ensuite, on revient sur Yosef. Yosef, entre-temps, il est donc devenu vice-roi d'Égypte. Et puis, arrivent ses frères. Ils viennent parce que la famine est là. Et donc, ils viennent chercher à manger. Et Yosef s'est arrangé pour savoir exactement quand il viendrait. Il savait qu'il viendrait, parce qu'il faut bien se nourrir. Et il avait posté des gens un peu partout, dans toutes les portes. Il y avait des gens pour savoir, pour l'avertir quand eux allaient venir. C'est pour ça que quand ils sont devant lui, il leur dit « Vous êtes des espions parce que vous êtes entrés chacun par une autre porte ». Il le savait parce qu'il avait posté des gens à toutes les portes pour savoir exactement quand ils allaient venir. Et eux, ils sont des portes différentes parce qu'ils cherchaient Yosef. Ils ont compris que Yosef était esclave, ils cherchent un esclave, ils cherchent leur frère esclave en Égypte. Yosef, quand il les voit, ils viennent et ils se prosternent devant lui. Alors on peut se demander pourquoi Yosef ne considère pas que ben voilà la première partie, le premier rêve là, où mes frères se prosternent devant moi, voilà c'est fait. Il pourrait maintenant envoyer un message à son père et lui dire, voilà, je suis en Égypte, tout va bien, viens aussi. En tout cas, même s'il ne dit pas de venir, mais voilà, je suis vivant et je suis en Égypte. Mais il ne lui dit rien. Ça doit être difficile pour lui et difficile pour son père. Son père, il faut penser à ce qui se passe. Son père est d'une tristesse infinie. Et cette tristesse, elle fait que Yaakov n'a pas droit à Hakodesh, lui qui en avait toujours.
Il n'a pas le droit à Hakodesh à ce moment-là. C'est-à-dire, Jacob, il est éteint, littéralement. Pendant toutes ces années, et Yosef aurait pu mettre un terme. Il aurait pu lui redonner la vie, il aurait pu lui le remettre en forme. Il n'en fait rien. Pourquoi ? Parce que Yosef s'est compté. Il en manque un. Il y avait 11 gerbes qui se sont prosternées devant la sienne. Et là, ils sont 10. Enfin, ils sont 9 à se prosterner devant lui. Il y a lui. Mais il manque Binyamin. Donc il fait venir Binyamin. Il oblige les frères à amener Binyamin, de telle sorte que, voilà, tout le monde se prosterne devant lui. Ensuite, il va essayer d'obtenir que son père aussi se prosterne devant lui, mais ça ne va pas marcher. Il a mis au point tout un scénario. Bon. C'est ce qui explique que... C'est comme ça qu'il expliquait pourquoi Yaakov Avinu, quand il va rencontrer pour la première fois après tant d'années Yosef, pourquoi Yaakov Avinu est en train de dire le Shema, et pourquoi Yosef pleure et Yaakov ne pleure pas. Non. Tout ça, c'est parce qu'effectivement, ça ne s'est pas déroulé comme Yosef le pensait. Donc, ça n'a pas marché. Son père ne s'est pas prosterné devant lui. Mais à ce moment-là, effectivement, il va se dévoiler. La royauté de Yosef, cette royauté en Égypte, elle se manifeste par une grande cruauté à l'égard des Égyptiens. Et tout ça, c'est pourquoi ? Pour enrichir Paro. Pourquoi Yosef aime tellement Paro qu'il faille l'enrichir ? Alors Adessler explique que il est là en train de préparer un harkar yitzu birchush gadol. Après l'exil, après l'esclavage, les Bnei Israël vont sortir avec un très grand butin. Donc pour avoir du butin, il faut bien que celui dont on prend le butin soit riche, sinon le butin ne sera pas très grand. Et donc il est en train d'enrichir Paro pour la sortie d'Égypte. Ici on a de nouveau cette chose très importante à savoir, c'est que ce n'est pas un accident qui nous a menés en Égypte, dont il faudrait sortir. Et ce serait ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, telle qu'elle a été annoncée, ce n'était pas l'Égypte, ce n'était pas défini que ce sera l'Égypte, mais cet exil, la sortie de l'exil, telle qu'elle a été annoncée avant Abihu dans Brit Ben Abetarim, cette sortie-là, elle commence quand ? Elle commence quand Yosef descend en Égypte. La descente en Égypte de Yosef, c'est le commencement de la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va se faire, tout cet exil, tous ces esclavages, tout ça, c'est la préparation de la sortie d'Égypte. Tout ça, ça n'a d'autre but que la sortie d'Égypte. C'est pas qu'il faut réparer quelque chose. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, si vous voulez, que la Torah, elle nous le trahit en quelque sorte, elle nous le dit. Quand Yaakov a envoyé Yosef prendre des nouvelles de ses frères, il faut savoir que Yaakov n'avait pas besoin du tout que qui que ce soit lui raconte quoi que ce soit sur les frères. Les frères, toutes les semaines, ils venaient donner un rapport. Alors, peut-être qu'on peut dire, peut-être que Yaakov n'était pas sûr qu'il dise la vérité. Mais qu'est-ce que Yosef pouvait déjà voir de plus que ce que les frères allaient lui laisser voir? Je pense que Yaakov ne pensait pas un seul instant que Yosef pourrait rapporter des informations qu'il n'avait pas déjà. Mais ce qui trahit complètement le noyau de ce qui se passe là, c'est que Yaakov, quand il appelle Yosef, il lui dit
il lui parle d'un endroit qui s'appelle Emek Chevron, la vallée de Chevron. Il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas, mais Chevron, ce n'est pas une vallée. Chevron, c'est plutôt une colline, ou des collines, ou une montagne, si on veut être généreux. Et donc, ça ne veut rien dire, Emek Chevron. Ça n'a pas de sens de dire que on l'envoie depuis Emek Chevron. En fait, où les Chachamim viennent et ils nous disent Emek Chevron, ça veut dire c'est le Omek, c'est la profondeur de la pensée de celui qui est couché, qui est là, enterré à Chevron, d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, ce que Yaakov est en train de faire à son corps défendant, de façon totalement inconsciente, même probablement, c'est de mettre en marche le processus qui a été annoncé à Avraham Avinu au moment de l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abtarim, où Hachem a dit à Avraham Avinu, « Kadoa teda ki ger yezaha, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, vont être réduits en esclavage, on va les faire souffrir, etc. Et après, je les ferai sortir, enfin, je jugerai aussi, je punirai le peuple en question, et je les ferai sortir, et ils sortiront avec un grand butin. Et comme le butin n'était pas suffisant, alors, à Kadosh Baruch Hu va donner une session de rattrapage de butin, en quelque sorte, au moment du passage de la mer. Parce qu'au passage de la mer, à la fois les makotes étaient beaucoup plus nombreuses, bien que nous n'en ayons aucune trace. Bon, nous savons tous ça par un Berdat Pessah. Il y en avait beaucoup plus. Mais on n'en a pas un seul exemple. Des makotes, vraiment. Des coups, des plaies, des coups que les Égyptiens ont reçus comme tels. C'est sûr que les cris, les cavaliers. Mais ce n'est pas ça les makotes, pardon. Donc, en fait, tout ça, c'est une préparation. Et donc, tout l'exil, d'abord les souffrances de Yosef, tout ce que fait Yosef, tout ça, c'est une préparation pour la sortie d'Égypte. D'où est-ce que Yosef a cette capacité d'être aidé par Hachem? C'est parce que lui, il avait quelque chose de cela qui lui permettait d'être aidé par Hachem, comme on verra. Cette aide-là, on ne peut pas prier pour quelque chose si on ne paye pas un peu de sa personne dans ce domaine-là aussi. La capacité que Yosef a de gérer la avodat rout, justement, ce travail de l'extérieur. Il faut peut-être se décider à dire ce que c'est que ce travail de l'extérieur. Le travail de l'extérieur, c'est en fait un travail qui consiste, comme on le dit, c'est peut-être le plus facile à dire, consiste à aller récupérer toutes les étincelles de Gdoucha qui se trouvent à l'extérieur du clan Israël. Le clan Israël, pour servir Hachem, à la fin de l'histoire, il aura besoin de toute la lumière, en quelque sorte, qu'Hachem a mise dans le monde. Mais il s'est trouvé, il y a eu un accident, disons. Et puis, il y a eu de la lumière, il y a eu des étincelles qui se sont perdues, qui se sont, bon, et qui ont été récupérées par les peuples du monde, par tous les peuples. Il y a des étincelles dans tout, chez les peuples, c'est-à-dire, il y a des bonnes choses. Il y a de la lumière. Il y a des choses positives qui sont chez les Homo Taola, qui sont chez les peuples. Et le clan Israël doit les récupérer. Et le clan Israël ne peut pas les récupérer comme ça. Parce que ces choses positives, elles sont dans une espèce de gang. Et les Israéliens n'ont pas les moyens de résister. Ils ne sont pas équipés du tout pour travailler dans ce milieu-là. Le seul moyen qu'on a, c'est qu'il y ait des guérisons. qui eux connaissent le pays en question, qui ont les, ils viennent de ce pays-là, donc ils ont les moyens de résister, et que eux comprennent qu'il faut aller chercher ces étincelles, et qu'ensuite, par leur conversion, ils amènent ces étincelles à l'intérieur du clan Israël. C'est le seul moyen, et c'est pour ça qu'on est en galoute. On est en galoute que pour ça, que pour récupérer ces étincelles, en quelque sorte, c'est-à-dire pour faire qu'il y ait des guérims, des gens qui viennent de là où ils viennent, avec certaines richesses dont le clan Israël a besoin et qu'il n'a pas, et qu'il doit récupérer de cette manière-là. Ça, c'est la avodat chutz. C'était ça le travail à l'extérieur. C'est ça le travail que Esav aurait dû faire, de façon idéale, en tout cas, je pense, dans l'idée de Yitzhak Avinu, quand il pensait qu'il allait se faire un travail à deux, entre Yaakov, Moshe Boalim, Yaakov qui serait un théoricien, qui serait un penseur, qui dirigerait les choses depuis son Beit HaMidrash, en quelque sorte, et Esav qui serait sur le terrain, et qui arriverait, par sa puissance, son intelligence, n'oubliez pas, la tête d'Esav est dans Marat HaMarpela, je le répète quasiment tout le temps, donc la tête d'Esav, elle est fabuleuse. C'est pas du tout, Esav, c'est pas le rachat qu'on dessine dans la Gada, footballeur ou je sais pas quoi, donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Esav, c'est un génie. Alors, il fait du mal, mais c'est un génie. Sa tête, elle est allée toute seule dans Marat HaMarpela. Elle savait où était sa place. Tout ce que Esav demande, etc., dont on fait des grandes choses, etc., c'est quelque chose de, c'est très puissant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas, comment on le ferait pour prendre le maaser sur la paille et sur le sel, quand on sait le rôle du sel dans toute l'histoire de l'humanité, dans le rôle fondamental du sel, c'est le conservateur, c'est ce qui a remplacé l'argent pendant très très longtemps, enfin qui était à la vente. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Et si on prend maaser sur maaser ksafim, pourquoi on ne prendrait pas maaser sur le sel? Pourquoi on ne prendrait pas, si on imagine qu'il n'y avait pas de la paille pour tenir le grain hors de la portée de tous les rongeurs, on n'aurait rien à manger. Les rongeurs, ils auraient mangé avant nous tout ce que le sol a produit. Donc il faut aussi réfléchir un tout petit peu et se dire que quand Esav pose une question, il faut d'abord regarder ce qu'il pose comme question. Ça ne veut pas dire que c'est le tzaddik de la génération. C'est autre chose. Mais ce n'est pas un imbécile, c'est un génie. Et si il avait mis ses capacités au service de la Torah, ça aurait été formidable. C'était ce que Yitzhak Avinu probablement. Mais justement, l'anti-Esav, lui, va mettre ses qualités, ce travail. Du coup, Rachel est devenue la spécialiste, celle qui est capable d'aider Yaakov, puisque Esav est disqualifié, Yaakov a tout il a tout reçu maintenant. C'est Yaakov qui doit faire tout le travail. Il doit donc faire le travail, Bachoutz aussi. Qui va l'aider? Rachel. Rachel a été mevatère, elle a renoncé à l'éternité, puisque, comme je vous ai dit, les valeurs, la avoda sur laquelle elle travaille sont des valeurs qui n'ont qu'un temps, mais qui sont absolument fondamentales et sans lesquelles rien n'est possible. Le Mashiach ben David, il n'est pas possible s'il n'y a pas eu, d'après ce que j'ai vu, s'il n'y a pas eu préalablement Mashiach ben Yosef pour aplanir le terrain, pour que ce soit possible. Yosef a hérité de Rachel. Le fait que Yosef sache gérer économiquement, sache diriger l'Égypte, sache préparer l'Égypte. Finalement, il prépare l'Égypte pour son rôle dans l'histoire du monde. Parce que finalement, l'Égypte, son rôle, c'est quoi? c'est d'être l'endroit où les Israélites vont être en exil, ils auraient dû faire juste ce qui leur était permis. Ils ont exagéré. C'est pour ça qu'ils ont été tellement sanctionnés. Ils ont quand même été choisis, si on veut parler comme ça, pour être ceux chez lesquels les Israélites vont faire leur classe. N'est-ce pas? L'Égypte, c'est la puissance dominante du moment. C'est la puissance la plus avancée. Les Bnei Israël, ils sont dirigés par Moshe. Moshe Rabbeinu était 40 ans prince héritier d'Égypte. Il connaissait toute l'Égypte, Moshe Rabbeinu. À fond. Tous les sens du terme. C'était un Égyptien, mais comme vous êtes des Français. C'était un juif égyptien. Le camarade Sigmund, il a décidé que c'était un égyptien.
Bon. Il s'est trompé,
il n'a rien compris. C'était bien un égyptien, mais pas du tout au sens où lui l'a compris. C'était un juif égyptien. Quelqu'un qui, après 40 ans de palais de Paro, peut sortir et reconnaître dans les esclaves ces gens qu'on ne voit même pas. Les Égyptiens, probablement de la noblesse égyptienne, ils passaient dans la rue, il y avait, disons, un esclave qui travaillait, ils ne le voyaient pas. Ça existait, sinon, il n'existait pas. Comme nous, il y a des gens dans la rue, on ne fait pas attention. Ça n'existe pas. Et lui, il a 40 ans de vie de princière, prince héritier d'Égypte, et il sort, il reconnaît ses frères. C'est un S. C'est parce que, et c'est ça que le Rambam dit, Shmuel Hanavi dit à Kadosh Baruch Hu, il a fabriqué Moshe Rabbeinu. Shmuel l'a même dit qu'il a fabriqué Aaron. Le Rambam, il n'a pas, je ne sais pas pourquoi le Rambam, il a laissé tomber Aaron, là. Il a repris seulement Moshe Rabbeinu. Ou à ça, dit Moshe. C'est pas du tout qu'il a inspiré Moshe. Ou à ça, Moshe. Il a fabriqué Moshe de telle sorte qu'il puisse faire sortir. Personne ne pouvait faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Si Tzipora n'était pas intervenue dans l'histoire de la Mila, on ne sortait pas d'Égypte. Vous ne seriez pas là, non. Dommage pour les gâteaux. Il aurait pu être diplomate, Yosef, quand il était chez Paro. Paro lui dit, Shamati Alecha, etc. Il aurait pu prendre ça pour lui. Non, il dit, Biladai, c'est pas moi, c'est Hachem qui. Il est un Nahar chez son père. Cette Naharout de. Il est comme ça, c'est un roi. Il n'accepte la Marout, la domination de personne. Ce qui suscite évidemment la haine de ses frères, parce que parmi ses frères, il y en a un qui est roi, c'est Yehuda. Le Maharal dit que ce qui génère cette jalousie et cette haine de ses frères, c'est une ma'ala ha'elokit. C'est une qualité divine que Yosef a là. Alors, Dessler, il définit le tzaddik comme étant celui qui est memale chelko, celui qui remplit sa part. Tout le monde a une part dans Olam Haba. C'est une part dans Olam Haba. Une part dans Olam Haba, on peut la remplir. Dans Olam Haba, c'est l'endroit où on peut remplir cette part. Il est malé chelko. Il dit que le chassid, c'est celui qui est marchiv chelko, qui étend sa part. C'est David, c'est plus que le tzaddik. Il y a un midrash qui dit Midrash qui dit dit que quand Jacob, je vais vous le dire, peut-être que le dessert l'explique tout de suite. Lorsque la Torah écrit que Jacob, quand on lui présente, quand les fils lui présentent, ses fils lui présentent la tunique de Yosef ensanglantée, il dit Chaya Ra'a Chalat. Une bête sauvage l'a dévoré. Alors il dit, si la Torah le dit de cette manière-là, c'est d'une certaine manière c'est vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas le lion qui a déchiré Yosef. Mais il y a quelque chose qui est vrai, qui est que il y a là une Hava Amina, c'est-à-dire la Hava Amina, c'est quoi? C'est que Yosef Hatzadik, il est allé chez Madame Potiphar. Elle insiste. Et Yosef s'est demandé, lui qui est toujours en train d'assurer la réalisation de ses rêves, il se dit, mais ok, je résiste. Mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que Madame Potiphar n'est pas, je vais dire ça comme ça, n'est pas un marche-pied pour moi pour arriver à cette royauté? Bon, elle est peut-être la marche la plus haute que je puisse utiliser pour arriver aux environs de la royauté en Égypte. En plus, elle lui a probablement dit qu'elle voyait, lui il n'a pas vu ça. On dit qu'elle voyait qu'ils avaient une descendance commune. Donc il se dit, c'est vrai, c'est Madame Potiphar. Il y a quelque chose de l'ordre de l'adultère éventuellement là-dedans, bien que ce ne soit pas plus très clair si effectivement on avait affaire à un vrai couple à ce moment-là. Mais bon, ça je ne sais pas. Mais il se dit, peut-être que j'ai tort. Et quand il dit quand le Passouk dit qu'il est venu la sop menachto, quand il vient faire son boulot, Chazal dit qu'il avait décidé de céder. Alors ils sont très en phase. Parce que le jour où lui il a décidé de céder, elle a viré tout le monde. Il n'y avait personne dans la maison. Ils ont tous envoyé les uns à l'église, enfin oui. Allez où vous voulez, mais en tout cas, personne. Je ne veux plus personne dans la maison. Donc ils sont en phase. Lui, il vient pour céder à ses avances. Et elle a fait le vide. Tout peut se passer, il n'y aura pas de témoin, rien du tout. Et il commence à céder. Alors, il ne voit, il pense qu'il est quasiment en train de faire une mitzvah, là. Il est en train de faire en sorte que son rêve se réalise. Il ne voit le Hémet qu'avec le visage de son père. Jacob, c'est le Hémet. Il ne voit la vérité que quand son père, le visage de son père, lui apparaît. À ce moment-là, il se rend compte, c'est déjà très tard dans le processus. Mais il s'enfuit. Et c'est là où on voit que c'est pas Tamar. Là, à ce moment-là, on voit que c'est une chaya. Du coup, maintenant, elle est tout à coup une chaya ra'a. Chazal disent que la chaya ra'a, c'était ça. C'est-à-dire, c'était pas quand Yaakov l'a dit, c'était pas encore fait, mais c'était ça le problème. C'est elle. Il s'avère que sous ces dehors de Tzedeket, elle était Tzedeket, mais tout à coup elle s'est avérée être une Chayara. Pourquoi? Parce que il n'y avait personne qui a se taire.
personne ne saura ce qui s'est passé. Ce n'est pas Yosef qui va la dénoncer.
Tais-toi.
Non. À ce moment-là, elle se retourne contre lui, elle l'accuse, etc. On voit dans la suite que son mari n'a pas beaucoup cru ce qu'elle racontait. Parce qu'en général, quand un esclave essaye de s'éloigner du maître, on ne l'envoie pas dans la prison des princes. Bon, c'est ce que Potiphar a fait. Il a mis Yosef dans la prison des princes. Yosef, c'est pas un prince, c'est un esclave qui est accusé d'avoir essayé de séduire la femme de son maître. Normalement, elle était l'esclave, on le tue, c'est tout. Et il ne l'a pas cru, mais il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Elle a fait tellement de bruit qu'il a fait ce qu'il fallait. Mais Yosef voit que tout s'arrange. Partout où il est, chez Potiphar, dans la prison, et à l'échelle de l'Égypte, tout réussit, tout lui réussit. Dans la Avodat Chutz, dans le travail de l'extérieur, à l'extérieur, ce travail pour ramener, pour utiliser l'Égypte pour ce qu'elle est, parce que quand les Israël vont s'y, Hazal vont dire qu'ils sont sortis d'Égypte et ils ont pris toutes les nitsutsot qu'on pouvait prendre, toutes les étincelles qu'on pouvait prendre, ils les ont prises. Ils ont laissé l'Égypte comme une nasse dont on aurait retiré tous les poissons. L'Égypte est vide. Il n'y a plus rien à faire en Égypte. C'est pour ça qu'on n'a pas à retourner en Égypte. Tout ce qu'on avait à chercher en Égypte, on l'a déjà pris. C'est fini. Au moins l'Égypte, elle est vide. Et ça, c'est Yosef qui avait tout préparé. Tout était là. Tout était dans la main de Paro. Et quand on a pris Paro, on a tout pris. C'est tout un travail d'amener toute la richesse dans les mains de Paro. Auparavant, il y avait des tas de roitelets, disons, ou de princes, je ne sais pas quoi. Chacun avait quelques esclaves, etc. Il a tout ramassé, tout ça pour Paro. Pour que Akadosh Baruch Hu est un interlocuteur. Moshe Rabbeinu, quand il parle, il a Paro, le maître de l'Égypte, quelqu'un qui tient toute l'Égypte dans sa main. Quand on bat l'Égypte, on a tout pris. C'est tout ce qu'il fallait dans l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle un tzaddik, ce Yosef? Alors, je n'ai pas trouvé, si vous voulez, de bonnes raisons. On a le Tanhuma qui dit qu'il est un tzaddik parce qu'il est le nourricier. C'est vrai, nourrir le monde, c'est fondamental. C'est-à-dire s'occuper des autres au point de les nourrir. Il est nourricier des Bnei Israël. Il est aussi celui qui construit complètement la sortie d'Égypte, la possibilité d'une sortie de la réussite de la sortie d'Égypte. Il faudra Moshe Rabbeinu après. Mais l'Égypte, elle est prête. Le travail qu'on peut faire, qu'il faut faire sur l'Égypte, il est fait. C'est fait par lui. Ensuite, il est tzaddik parce qu'il a ultimement, finalement, il a quand même résisté à Mme Potiphar. Là-dessus, je suis un peu plus sceptique, même que le Zohar, il dit que ça. C'est ça, il est tzaddik uniquement à ce titre-là. Mais je ne sais pas s'il faut être plus admiratif du travail de son père que de lui-même. C'est quand même son père qui a réussi à lui enseigner les choses de telle sorte qu'elles soient à portée de main, en fait. Que dans une situation aussi critique, il puisse avoir l'image de son père. Il a quand même marqué très fort. Yosef va envoyer les Agalot, comme vous savez, pour lui rappeler à son père son étude, etc. C'est quoi? Il est un tzaddik parce que, en réalité, être tzaddik, je vous donne la définition de Rav Dessler, mais c'est en fait
être capable, dans la salavoda fruits en fait, être capable d'avoir, de faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qui doit être fait, mais de faire tout ce qui doit être fait en relation avec la volonté d'Hachem. Il fait tout, tout ce qu'il faut. Mais à tout moment, il faut vérifier, il faut voir si c'est vraiment la volonté d'Hachem. Alors, il est privilégié, Hachem lui donne sans arrêt des satisfacits en le faisant réussir, quelque part. Mais il y a quand même aussi des éléments, les choses ne se passent pas toujours comme lui le pense. Par exemple, je ne sais pas comment il a vécu le fait que son père a quasiment pris ses fils. Finalement, c'est à moi. C'est plus tes enfants, c'est les miens. Si tu as d'autres enfants, ça sera bien, mais en attendant, c'est les miens. C'est moi qui les prends. C'est son père, d'accord. Je ne sais pas. Les enfants sont toujours tellement contents que les grands-parents mettent la main sur... Enfin, c'était pas n'importe quel grand-père, etc. Mais bon, c'est pas évident. Mais je sais pas, je suis très admiratif, si vous voulez, du travail éducatif de Yaakov Avinu par rapport à Yosef. Il a quand même permis qu'il lui a mis quelque chose de mobilisable, il lui a donné ça sous la main. Bon, il est quand même sadique pour ça, en tout cas, pour la plupart des commentateurs, pour le Zohar, pour plein de... Il est Yosef Hatzadik. Maintenant, comment expliquer le pasouk dans Amos qu'on a vendu Hatzadik? Alors on peut dire que il a été vendu après ses rêves. Et peut-être c'est la capacité, si on dit qu'il y a dans le rêve des gerbes quelque chose de l'ordre du nourricier, alors, il a déjà été capable de se penser nourricier. Et si on dit que nourricier, c'est une justification d'être tzadik, comme on l'a vu, alors, c'est pas, il n'a pas nourri de facto, mais déjà dans l'idée, il a un travail intérieur en lui de se considérer comme étant le nourricier de ses frères, et c'est effectivement comme ça que ses frères se présentent devant lui. Ils ne se présentent pas devant lui seulement en se prosternant, ils se prosternent parce qu'il est le nourricier. Ils sont là parce qu'il est le nourricier. Donc, il a peut-être pensé à ça, si vous voulez, il a osé le rêver, c'est comme ça, il a osé le rêver, et peut-être ça qui fait ce tzadik dont on parle, Hazal parle, bien que dit, les commentateurs dans le Nar sur Amos, ils ne disent pas ça. Le Tanhuma, il a l'air de dire que c'est ça son pasouk, c'est très étonnant. Il parle de nourricier, puis il amène un pasouk où on voit rien de tout ça. Je vous ai dit, il a eu cette Hava Amina, il a pensé à un certain moment que ça pourrait se passer avec Madame Potiphar. Il s'est trompé. On voit très bien que le raisonnement semble-t-il parfait avec à l'appui du roi Hakodesh, etc. Il peut être faux. Il a fallu... Il est faux, mais il a fallu le mettre en face du Emet. C'est le Emet de son père qui représente le Emet. C'est comme ça qu'il s'est en quelque sorte rattrapé. Donc, il est l'héritier de Rachel qui a fait un travail extraordinaire. Elle a abandonné l'éternité à sa sœur. Elle a abandonné la avodat pnim qui était sa avodat par rapport à Yaakov Aminu, à sa sœur. Alors, moi je vous dis, elle l'a abandonné. Et Ravuna, il dit, c'est la puissance de la prière. Et la prière, comment se fait-il? La prière est capable de donner à Léa, je comprends, mais de prendre de la Rachel, c'est moins évident. Comment la prière de Léa peut enlever quelque chose à Rachel? C'est des choses que je ne comprends pas encore très bien. Et lui, il est son héritier. Elle lui a donné, c'est elle qui lui donne cette force pour faire la avodat chutz, pour travailler à l'extérieur. Travailler à l'extérieur, c'est travailler dans le galout, travailler avec les autres, avec les omota olam, faire un travail dans des conditions difficiles. Et c'est ça celle qui n'a qu'une force, disons, momentanée. Mais c'est ça, c'est elle qui conquiert, c'est elle qui invente le chemin pour que les matanot, olam miot de Léa puissent exister. Sans Rachel, il n'y a pas de Léa.